une histoire particulière. C'est un ours mâle de 4 ou 5 ans. Il a des impacts de balles dans le poitrail. Qui a tué l'ours de l'Ariège? Telle était l'histoire que Romain Weber et Thomas Duterre nous ont racontée hier dans le premier épisode. Le coupable risque la prison ferme et une belle amende. Ce n'est pas le premier ours des Pyrénées tué par balle. Il y a eu Canel en 2004 et Melba quelques années avant. Mais ces deux ours avaient été abattus par des chasseurs acculés. Cette fois-ci, pas de partie de chasse, pas de triste accident. Quelqu'un a tiré pour tuer. 10 000 euros ? Non, 30 000, puis finalement 50 000 euros à celui ou celle qui dénoncera le coupable. Aujourd'hui, la suite d'un curieux western français.
Il était une fois en Ariège, Thomas Duterre, Romain Weber. Deuxième partie, les hommes des hautes montagnes. Cécile Dupont, vous êtes rédactrice en chef de la Gazette ariégeoise. On est ici dans vos locaux, à 2 km de Foix. Est-ce que vous pouvez me raconter ce que vous avez reçu un jour de septembre 2017, il y a 3 ans, ici même?
J'ai reçu au courrier une clé USB. Et cette clé USB, je ne l'ai pas lue immédiatement parce que le matin même, j'avais une conférence de presse à la Chambre d'agriculture qui, au sujet de l'ours, justement. Donc, je n'avais pas vu le courrier. Et quand je suis rentrée de cette conférence de presse et qu'on a ouvert le courrier et qu'on a vu cette clé USB, on n'a pas osé la lire tout de suite parce qu'on se posait la question de savoir si ce n'était pas un virus ou voilà, quelque chose de malfaisant. Et donc, on est allé chercher un vieil ordinateur qu'on n'utilise pas, qu'on a sorti de notre réseau interne pour être sûr de ne rien abîmer au cas où. Et on a branché la clé USB sur cet ordinateur. C'était en fin d'après-midi, donc ça faisait peut-être 3, 4 heures, 5 heures qu'elle était arrivée dans nos locaux. Et quand on l'a vue, on a été vraiment très surpris, très impressionnés. On a hésité à savoir si c'était un gag ou si c'était sérieux. Et on était saisis devant l'écran en se disant mais qu'est-ce que c'est? D'où ça sort? Donc du coup, on a regardé l'enveloppe très précisément. On a regardé la clé. On a essayé de chercher s'il y avait des indices sur la clé, s'il y avait des fichiers cachés, si plein de choses comme ça. Il n'y avait rien, en fait. Et on a fini par en parler, évidemment, sur notre site internet en premier, voilà, en disant qu'on avait reçu ça. Et comme il y avait eu 2 autres titres qui avait reçu cette clé, ben, l'information a commencé à se diffuser très très rapidement.
Nous, montagnards d'Ariège, éleveurs, randonneurs, chasseurs, élus, citoyens, disons à l'État, stop, ça suffit. Par l'introduction d'ours slovène, puis la création d'une pouponnière, leur permettant de se multiplier, l'État français met en place une gestion du territoire où peu à peu, il limite aux hommes, aux femmes de la montagne, l'accès, la liberté d'être, de faire, de travailler. Alors, nous avons décidé de réouvrir la chasse à l'ours en Ariège et de mener une résistance active face aux agents de l'État. L'Ariège, terre de liberté, est notre passé et sera notre avenir.
Alain Rennes, on est avec vous dans les locaux de l'association Pays de l'Ours ADET à Arbas, en Haute-Garonne. Est-ce qu'on peut la regarder ensemble, cette vidéo?
Oui, bien sûr, on peut faire ça. Ben là, on voit une vingtaine de personnes armées, cagoulées, et qui se réclament des acteurs locaux. Caricature complètement, effectivement, le dossier ours, et explique qu'ils veulent réouvrir la chasse à l'ours. et déclarer la guerre aux agents de l'État, avec des choses graves. Hein. On voit par exemple ici là, une personne avec une arme de poing, hein, ce qui est encore bien plus grave que je dirais avec une arme de chasse. Donc on est vraiment là dans une action complètement illégale, caractérisée. Et quand on voit ces images, je ne peux pas imaginer que les services d'enquête ne puissent pas identifier un certain nombre de personnes de par leur tenue vestimentaire, leur attitude, etc. Je pense que malheureusement, il n'y a pas eu de volonté d'identifier et de poursuivre ces personnes. Et c'est cela qui crée ce sentiment d'impunité. Quand on annonce la réouverture de la chasse à l'ours, ce qui est évidemment complètement interdit, et qu'il ne se passe rien, bah, y a quelqu'un qui a pu se dire, bah, après tout, voilà, on peut... Voilà, je crois que c'est charmant, effectivement, comme contexte et comme ambiance. Il y a quelqu'un qui a pu penser que bah, la chasse à l'ours était ouverte et qui a tiré un ours, voilà, début juin 2020.
Après, il y a eu aussi des altercations entre agents maintenant de l'OFB au cours d'expertise, quand ils se rendent sur place, où là encore, ça ne se passe pas forcément bien. Parfois, ça se passe bien, hein, mais parfois, ça ne se passe pas bien. Il y a des éclats de voix, il y a des échanges de mots qui sont peu amènes. Il y a 3 ans aussi où il y avait eu des coups de feu tirés dans la montagne, au loin. Donc tout ça fait un climat quand même assez délétère. Depuis le début, moi, je vois le sujet est de plus en plus clivant. Est de plus en plus problématique pour tous les acteurs. Et je ne vois pas d'issue à cette réintroduction, d'autant que maintenant, on a une 50aine d'ours dans les Pyrénées, et en grande partie, une 40aine serait en Ariège, voire une grosse 20aine dans le Couserans. Donc, ils sont là, ils sont très présents, ils se reproduisent bien, ils s'y plaisent beaucoup, ces ours réintroduits. Donc je ne vois pas quelle peut être l'issue de ce clivage que je vois monter et surtout s'amplifier, se durcir depuis le début et surtout depuis les 5 dernières années.
Avec mon compagnon, et ça fait 10 ans qu'on perd des bâtons en estivant. Et en 2017, eh ben, on a eu un gros crash. On a perdu 40 à 45% de notre troupeau dans un très gros dérochement. Un ours avec ses petits, certainement, a bouffé une brebis en haut d'une falaise et a fait dévaler le reste du troupeau. Voilà. On est sur des montagnes qui sont très escarpées, qui sont très difficiles. Et du coup, ben, c'est ce qui peut se passer. C'est ce qui s'est passé l'année dernière à Sénart. C'est ce qui s'est repassé l'année dernière chez nous, hein, parce qu'il y en a eu 60 encore au tapis sur un dérochement. Pour nous, l'ours, il représente de la destruction. La destruction de nos exploitations, la destruction de nos estives, une destruction psychologique et morale également, et puis une destruction du sens et de l'utilité qu'on met derrière notre travail.
Ce matin-là, c'est un de mes frères qui a donné l'alerte.
Jean-Pierre Mirouze, éleveur.
Et il essayait de m'appeler depuis 6 heures le matin, c'est-à-dire depuis qu'il s'est aperçu que quelque chose ne fonctionnait plus trop dans le troupeau, qu'il ne voyait plus les brebis au point de couche. Et il m'a annoncé le grand spectacle, quoi. L'horreur. Et donc, il était dans tous ses états, évidemment. Il m'a dit, je crois que tout le troupeau a déroché, il ne reste plus rien. Alors moi, j'essayais de le calmer sur les nerfs qu'il avait, et sur la colère et tout ça. Mais il me dit, mais non, tu comprends rien à ce que je dis, il reste que 60 brebis à la couche, hein, tout le reste a déroché. Alors vite, vite, je suis monté à la 4 voies et en avant. Et puis, sous les coups de presque midi, j'étais là-haut, quoi. Après, j'ai découvert le spectacle avec d'autres collègues qui m'ont suivi, parce que je les ai alertés qu'on avait eu un dérochement. Et vite, vite, ils sont venus parce que j'étais complètement défait. Et là, voilà, on ne peut pas dire comment ça nous laisse. On peut pas... Il n'y a pas de définition. Il y a pas de... Voilà, on sait très bien le travail qui a recommencé. Il faut plus de 15 ans pour reconstituer un troupeau. C'est pas avec un chèque qu'on reconstitue un troupeau comme ça en claquant des doigts. J'ai un dérochement aujourd'hui et l'année prochaine je redémarre ma production comme si rien ne s'était passé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous on ne travaille pas avec des choses, on travaille avec du vivant. Sur les 4 ou 5 ans qui vont suivre, je sais très bien comment ça va être, quoi. Le troupeau va avoir une mauvaise prolificité, une mauvaise reproduction, toujours apeuré, toujours ceux-là qui vivent, jamais manger correctement. Le moindre oiseau qui se lève, elles ont peur, quoi. Et je sais très bien, tout cet hiver-là, l'agnelage qu'on a eu, en principe, quand les animaux ruminent, qui se couchent pour ruminer et tout ça, bien tranquille, on arrive à les escalader sans les déranger et tout ça, dans la bergerie. Et puis cet hiver, c'était l'enfer, on ne pouvait pas escalader une brebis, elles avaient peur de nous, enfin voilà, tout se remisait au coin de la bergerie. Et ça, c'est pas du travail, quoi. Parce que les animaux, il faut qu'on... C'est un lien entre eux et nous, quoi. On les a vus naître, on les fait naître, certains. Et voilà, le troupeau de souche, que j'appelle, c'est-à-dire le troupeau pour reproduire, voilà, c'est des agnelles qu'on garde, de brebis les meilleures du troupeau, les plus rustiques, celles qui font du bon lait, de la bonne viande, etc. Et j'estime qu'on n'a pas le droit de s'attaquer à notre bien. C'est notre bien propre, c'est notre capital, c'est tout ce qui nous fait vivre. Et donc, voilà, il n'y a pas de mots pour raconter ce qu'on ressent, quoi.
J'ai pas de... Non, j'ai pas de... J'ai pas la connexion.
On n'a pas de communication au XXe siècle. Ouais.
Il y a le berger Pistol qui vient de m'en trouver une...
De quel côté ?
Eh bien, sur le chemin qui monte à la pique de Céron. Evan vient de me dire que tu avais une carcasse fraîche au-dessus de la pique. La pique des Laquettes, avec une brebis à Édouard à côté seule. Je monterai demain matin, là je reviens du constat numéro de carcasse. 95-087. 95-087.
Elle a le droit de faire le constat, la bergère ?
Non. Il faut que ce soit l'OFB. Ils reviendront demain. Ils reviendront demain. Il y en a deux autres. Voilà.
Il faut les cacher. Il faut mettre une couverture, quelque chose dessus. Sinon, les moteurs passent, il n'y a plus rien.
Oui, il n'y a plus rien.
On ne constate plus après. Pour se faire payer. Alors, s'il n'y a pas quelqu'un qui les voit et mettre une couverture, quelque chose. Alors, la veste, souvent.
Philippe Périssé, là, vous venez de recevoir un message là, à l'instant. Vous avez encore perdu une bête.
Oui, encore perdu une bête. Là, la bergère vient de me prévenir par SMS que j'avais une brebis à moi et une autre brebis à un autre éleveur qui est sur le même groupement que moi. De trouver les carcasses, elles sont juste au-dessus de celles qu'on avait trouvées ce matin. Et celles-là, on ne les avait pas trouvées, c'est en faisant la recherche, l'autre berger qui a sur l'autre estive qui les a trouvées en venant voir la bergère qui était de notre côté.
Où c'est qu'elle est,
là ? Putain, c'est pas possible. À ce rythme-là, en septembre, on n'a plus de bêtes. Hein. Moi, j'ai la préfète, je l'ai appelée la dernière fois, elle a été très correcte. Hein. La préfète de la Rège, elle m'a rappelé. Et je lui ai dit qu'on avait, à ce rythme-là, en septembre, on n'a plus de brebis. On ne sait plus comment faire. On ne sait plus comment faire.
En Ariège, il y a une crainte de trois choses. La première, c'est qu'il y ait un ours tué. Ça, c'est arrivé. La seconde, qui est un accident avec un ours. C'est-à-dire qu'une rencontre un peu malheureuse avec un ours à un randonneur. C'est arrivé en juin 2019.
Cécile Dupont, rédactrice en chef de la Gazette ariégeoise.
Le randonneur est parti en courant. Il en a été quitte pour la peur de sa vie, mais il ne lui est rien arrivé. Et puis aussi un éleveur qui arrive à bout. Et qui puisse passer à l'acte et faire, sur lui-même, hein, je veux dire, hein, des éleveurs qui sont tellement en larmes quand ils perdent leur troupeau, surtout sur des gros dérochements comme on a eu l'an dernier, ou alors qui sont à bout parce qu'ils ne dorment pas, parce qu'ils ramassent des bêtes à moitié mortes, parce que parfois elles ne sont pas complètement mortes, hein, il faut les terminer. Là, récemment, il y a encore des brebis éventrées avec des agneaux. Donc, ils sont aussi le support d'une grosse vindicte populaire. Donc, ils sont vraiment pas bien. Et c'est vrai qu'on craint aussi qu'un éleveur, qu'un berger ait un coup de...
Se suicide.
Ouais, clairement, oui. Oui, oui. L'escalade de la violence, on l'a surtout vu à la bastide de Céroux, où de tous les observateurs qui étaient présents, il y a eu un affrontement direct. C'est à ce moment-là, si vous voulez, que j'ai compris qu'on était sur des positions résolument irréconciliables.
Vous, Alain Marek, en tant que représentant de l'ASPACE en Ariège, est-ce que vous étiez à la bastide de Céroux en mai 2018?
Bien sûr, j'étais à la bastide, mais c'était un ASPACE, bien sûr. C'était les journées de l'écologie en Ariège. On avait notre place, comme tout le monde. Et là, on s'est retrouvés avec ces nissans, chasseurs et agriculteurs en face de nous, avec des tracteurs, des troncs d'arbres pour barrer la route. Il a fallu une compagnie de CRS, madame la préfète, c'était l'ancienne, Marie Sajus à l'époque, qui est venue, le sous-préfet de Bagnères, des gendarmes de Foix, plus une compagnie de CRS, hein, pour arrêter les excités en face, qui étaient prêts à rentrer dans le gymnase où on était tous enfermés dedans pour exposer nos propagandes de nos associations, voilà. Mais c'était un coup monté par les antiques, je veux dire, c'est un coup mais dur, quoi. Quand vous arrivez à des tracteurs, des troncs d'arbres pour barrer des nationales et empêcher les gens de venir à une animation normale, quoi, je veux dire, c'était rien, il n'y avait rien de pro-ours ni rien, c'était pas du tout ça, c'était pas du tout le but, c'était les états généraux de l'écologie en Ariège. Il y a plein de trucs, il y a plein d'associations qui n'avaient rien à voir avec l'ours. Hein.
En 2018, là, on a appris que certaines associations que nous, on prend pour extrémistes, se réunissaient à la bastide de Céroux. Et on a pris ça un petit peu pour de la provocation. Qu'ils se réunissent sur Toulouse, sur Bordeaux, sur là où ils voudront, mais pas venir dans nos campagnes et venir marcher sur nos plates-bandes. Donc, les différents syndicats, tout le monde s'était réuni ce jour-là pour montrer quand même notre détermination et pour montrer qu'ici, c'était nous qui faisions vivre le pays et pas eux.
Et là, il faut imaginer une salle des fêtes où les assises de l'environnement, on va les appeler comme ça, se tiennent, qui borde une rivière, la rivière Arize, qui au mois de mai est encore un peu haute, hein, et fraîche. Et il y a cette manifestation qui se déroule, et là je vais vous montrer un peu les images. Alors,
Antoine Cochet, journaliste à la Gazette Ariégeoise.
Je ne sais plus combien il y a de manifestants. Il y en a plusieurs centaines, ça c'est sûr. Peut-être 2000, je vous dirai une bêtise. Ça sera confirmé. Pétards, tracteurs, et manifestants qui vont vouloir défiler dans le village, sur la route départementale. Un grand renfort de sonnailles et de pétards, et pour aller essayer de rejoindre la salle des fêtes et essayer de se mêler au débat. Bien sûr, la préfecture a déployé un imposant dispositif de sécurité. Vous voyez, donc là vous avez l'entrée, l'accès qui est barré par des camions de CRS et les grilles. Voilà, tout est sécurisé, ça se chauffe. Voilà, il y a des tracteurs qui arrivent. Donc vous voyez les vestes orange, typiques des vêtements de chasse en fait, hein, voilà. Et là, on a vu quelques gaz lacrymogènes qui ont été dispersés pour écarter un peu la foule, qui fait pression vraiment, hein, sur les grilles, avant d'essayer de passer par un autre chemin. Et là, il y a une rivière. En fait, la salle des fêtes est bordée par la rivière Arize, donc. Et donc, on arrive de l'autre côté. Et là, on a quelques manifestants qui vont tenter de franchir à pied la rivière pour aller interpeller les associations environnementales.
Et aujourd'hui, on va traverser la rivière. On va pas la traverser, la rivière. Mais le prochain coup, on la traversera.
Philippe Lacube, qui est un historique opposant aux réintroductions telles qu'elles ont été faites.
Aujourd'hui, on va rester digne, on va rester calme. Madame la préfète, on va rester calme aujourd'hui. Et nos troupes, aux chasseurs, aux éleveurs, ils vont nous entendre. On va rester calme. On ne va pas passer cette rivière. Et tout le monde va nous écouter. On ne va pas la passer. On va faire du bruit. Mais la rivière, symboliquement, si ça continue, on la passera. Ça, c'est sûr. Il y en a assez de tout ça. Il y en a assez de ces gens qui nous misèrent, de ces gens qui nous insultent, de ces gens qui crient derrière nous.
Il y a cette rivière qui sépare, comme si elle séparait vraiment deux mondes, les deux facettes de ce qu'est l'Ariège. D'un côté, des associations environnementales, et de l'autre côté, un monde rural plus traditionnel, on va dire, qui estime qu'on cherche à le faire mourir, en fait.
C'est du harcèlement. Tout simplement, c'est du harcèlement. Vous êtes arrivé ici et je sais pas l'impression que vous avez. Vous habitez à Paris, je suppose. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vécu 10 ans à Toulouse. Moi, le béton, à un moment donné, le goudron, c'était très pesant pour moi. C'était pas un symbole de sérénité, etc. Plus on monte, plus on est serein, plus on est apaisé. Ça nous fait ça à nous aussi. Et c'est pour ça qu'on habitait dans des endroits comme ici. Quand on montait en montagne, avant, c'était ça aussi. Plus on montait, plus on se chargeait en énergie, plus on le sentait, quoi. On le sentait que cette montagne nous faisait du bien. Aujourd'hui, c'est le contraire. Plus on monte, plus elle nous pèse. Plus elle est lourde, quoi. Plus on a peur. C'est du harcèlement. On a une pression psychologique permanente, toute l'année. Il y a un film qui est sorti qui s'appelait « Les blessures invisibles ». Ça se voit pas, vous allez rencontrer des gens qui sont rudes, qui sont durs, qui aiment leur métier, qui aiment leur montagne, et qui veulent continuer à travailler au pays, mais ils en chient. C'est dur.
Est-ce que vous en avez des blessures invisibles ?
Oui, bien sûr. Oui. Moi, je suis très, très en colère. Très, très en colère, depuis très longtemps. Du coup, c'est compliqué, quand même, de faire sortir cette colère à un moment donné. Et elle sort pas. Enfin, elle sort par moment, mais... Ouais.
Mais contre qui ?
Contre l'État. C'est honteux, ce qu'ils font. Ils nous imposent un animal qui sert à rien, quoi. Qui, écologiquement, il apporte une richesse parce que juste il est là. Voilà. Les conséquences seront désastreuses, écologiques. Hein. Elles seront complètement désastreuses. Les conséquences financières, les conséquences économiques, les conséquences sociales seront complètement désastreuses à terme, on le sait. On ne veut pas que les Pyrénées ressemblent à un sanctuaire sauvage, comme un parc au Canada ou comme un parc dans le Yellowstone, quoi. Qu'est-ce qu'on veut faire comme aménagement dans nos montagnes, quoi ? Concrètement, est-ce qu'on veut une frontière sauvage entre une métropole Toulouse et une autre métropole Barcelone ? Ce serait magnifique d'avoir un grand parc sauvage. Je pense qu'il y a des gens qui se l'imaginent, qui ne sont pas ici, hein, ces gens-là, mais il y a des gens qui se l'imaginent, d'avoir une grande frontière sauvage, payante évidemment, entre deux grosses métropoles et quelques campagnes quand même pour faire un petit peu plus de verdure et de transition. Ou avoir des Pyrénées qui sont vivantes, où chacun peut entrer quand il en a envie et comme il en a envie, où chacun peut aller faire du VTT, du parapente, du ski en hiver, où on peut exploiter des parties de la montagne, où on peut enrichir notre patrimoine et nos écosystèmes.
La Bastide de Céroux, et puis plus globalement l'affaire de l'ours dans les Pyrénées, on a l'impression que c'est une division un peu... à l'image de ce qui se passe en France, entre une France rurale et puis une France écolo perçue comme citadine.
Alors, ça me semble être une caricature du dossier. C'est ce qu'aimeraient faire croire les opposants.
Alain Rennes, directeur de l'association Pays de l'Ours, ADET.
Tous les éléments qu'on peut réunir, et puis nous, tous évidemment, les témoignages que l'on a, vont dans un sens très différent. C'est que, clairement, la majorité des populations locales, rurales, montagnardes sont favorables à la présence de l'ours dans les Pyrénées. Mais les groupes essayent d'imposer par la violence un point de vue qu'ils n'ont pas réussi à faire valoir par les voies légales et les voies démocratiques. Comment des lobbies créent une milice, clairement, une milice violente qui, du coup, intimide, menace, empêche l'expression des personnes, c'est ce qui s'est passé à la Bastide de Céroux, ça s'est déjà passé en d'autres circonstances, et essaye de faire croire que les populations locales, que l'ensemble des acteurs du milieu montagnard sont opposés à la présence de l'ours et sur ce schéma que la montagne contre les citadins, souvent qualifiés de bobos, évidemment, de bobos écolos éventuellement, c'est aussi orienté très clairement contre les fonctionnaires toulousains, parisiens, Bruxelles, etc., etc. L'ours est loin d'être le plus gros problème des éleveurs et loin d'être le plus grand prédateur de brebis l'été en montagne. D'abord, il faut le savoir qu'il meurt à peu près 30 000 brebis chaque été dans les Pyrénées françaises, sur les 600 000 qu'il y a au total. Sur ces 30 000, les causes de mortalité principales, c'est par exemple les chutes ou les prédations d'autres espèces que l'ours. mais on focalise sur l'ours parce que c'est une espèce emblématique, parce que c'est une espèce qui mobilise. Mais si j'essayais de vous faire deviner quel est le plus grand prédateur des brebis en montagne, vous pourriez me citer l'ours, c'est pas lui. Vous pourriez me citer le chien, on le fait souvent, c'est pas lui non plus. Le loup, c'est pas lui non plus. Le renard, c'est pas lui non plus. Non, la réalité, elle est beaucoup plus simple que ça. Le plus grand tueur de brebis en montagne l'été dans les Pyrénées, ce sont les asticots. Puisque dès qu'une brebis est blessée entre deux pierres, par exemple, ou autre, les mouches, présentes en abondance évidemment, viennent pondre sur ces plaies. Et en quelques jours, les asticots se développent et les asticots tuent une brebis. Mais est-ce que vous imaginez une manifestation contre les asticots en montagne ? Eh bien, le système fait que dans la relation entre les agriculteurs et l'administration nationale et les administrations européennes, eh bien, tout est basé sur le conflit, tout est basé sur la revendication, et il vaut mieux taper sur les ours que de taper sur les asticots.
Dites-moi, Alain Marek, vous n'avez pas parfois l'impression que vous êtes un peu seul à vouloir le dialogue ?
Non, non, on n'est pas seul, hein. Si on regarde au niveau d'Ariège, je suis un peu isolé, oui. Mais au niveau national, donc, je pense que c'est... Nous avons une majorité, quand même.
Eh oui, mais cette histoire, elle est qu'en Ariège.
Et oui, c'est vraiment... Et ça ne pouvait se passer qu'en Ariège. Non, mais les Ariégeois, c'est pas... Il faut... Ils vont évoluer comme les autres, hein. Ça va évoluer un jour, ça va... Ils vont évoluer, n'est-ce pas ? Moi, j'ai confiance, je pense qu'ils vont... Ça va s'améliorer. Il faut que ça s'améliore. Et j'irai leur dire, je leur dirai, j'aurai pas peur de les rencontrer et de leur dire. Voilà. Qu'on lâche les fusils, qu'on lâche. Qu'on laisse tomber les fusils.
L'année 2020 se termine sans avoir identifié la ou les personnes qui ont tiré sur l'ours retrouvé mort à Ustou. Deux autres ours ont été tués par l'homme cette année, du côté espagnol des Pyrénées. L'un dans une battue, l'autre empoisonné. C'était la deuxième partie de « Il était une fois en Ariège » avec Élodie Amiat, Cécile Dupont, Alain Marek, Alain Rennes, Antoine Cochet, Jean-Pierre Mirouz et Philippe Périssé. Merci à Alain Servat, maire d'Ustou, et aux habitants d'Ustou qui ont croisé notre route, à Olivier Tartaglino, chef du service de l'Office français de la biodiversité en Ariège, à Rémi Dangean, éleveur, à Laurent Dumaine, procureur de la République à Foix, à Isabelle Roger de l'ASPAS, et à Lina Skoglund. Mixage, Bernard Laniel. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, attachée de production Sylvia Favre, Les Hommes des Hautes Montagnes, un documentaire de Thomas Duterre et Romain Weber.
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Nous irons à l'île Dieu. Il paraît qu'il y fait bon, face à la mer. Mais c'est une autre histoire.